Vous écoutez Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison, un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique et à la philosophie. Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis Jean-Michel Avarsard et aujourd'hui, je suis avec Thierry Rocher. Salut.
Salut Jean-Michel.
Thierry est un membre du CNEGU. Enfin, tu peux te présenter un petit peu, qui es-tu?
Oui, tout à fait. Bah, écoute, je suis Thierry Rocher. J'ai plongé dans l'ufologie en 1978 et puis j'ai découvert un monde particulier, associatif, indépendant, de groupe, ce qui fait que ça m'a fait évoluer petit à petit. J'ai rencontré beaucoup de monde, effectivement, parce que j'ai eu la chance d'être sur Paris et l'Île-de-France, ce qui fait que les rencontres ont été multiples et j'ai travaillé depuis cette époque-là. Disons que je n'arrête pas dans ce domaine-là. Voilà.
Ah ouais. Moi, je pense que du côté de mes auditeurs, t'es un peu plus. Il y a des membres un peu plus célèbres du CNEGU, évidemment Éric Maillot, et puis bon, ils sont pas du CNEGU techniquement, mais enfin qui sont dans le même circuit, Patrice, etc. Ils sont très. Je pense que c'est des noms qui sont plus connus, mais comme ça, c'est bien. Une fois, ils voient un autre visage, ils font une connaissance avec quelqu'un d'autre. Je t'ai déjà interviewé sur le Bad 2 il y a très très longtemps, mais bon, ça date.
Je m'en rappelle même plus.
Ça date vraiment. Ah, ça fait 13 ans que je fais le balado, donc forcément.
Ah oui.
Alors donc aujourd'hui, on va discuter de l'audition américaine qui a eu. Donc c'est pas vraiment, c'est pas vraiment une interview de Thierry. Je lui ai demandé gentiment de venir discuter pour que ça soit un peu plus interactif.
Je vais meubler pendant que tu vas parler des États-Unis, c'est ça.
On va. Il va nous donner ses impressions. Je vais vous donner mes impressions sur tout.
D'accord.
Sur tout ce chaos aux États-Unis pour le moment. Ouais, donc c'est une émission qu'on m'a un peu réclamée à corps et à cri. Voilà. Alors, bon, remarque préliminaire, en fait, c'est un peu compliqué comme truc. Il y a tout un cast de personnages assez. Enfin, voilà, pour arriver à être familier avec tout ça, et quand on débarque dans le truc, c'est assez. Ça part un peu dans tous les sens.
Ouais, c'est complexe.
Du coup, on va essayer de débroussailler plutôt le terrain pour vous donner une idée pour vous aider un peu à mieux comprendre ce qui se passe, quoi. Juste pour donner la timeline, donc il y a eu un article en 2017 dans le New York Times qui a fait beaucoup de bruit, qui a été écrit par Leslie Kline et collaborateurs. Hein, donc disons déjà que Leslie Kline, bon, les gens ils pensent à New York Times, ils pensent que c'est une journaliste du New York Times, mais en fait. Oui, techniquement, c'est une journaliste, mais en pratique, c'est une activiste dans les milieux ufologiques depuis des décennies. Elle a écrit plein de bouquins sur les ovnis, etc. Donc, c'est pas forcément. Enfin, un, c'est un article qui pose beaucoup de problèmes, et deux, c'est pas un article objectif, c'est un article écrit par une militante pro-ovni, en fait.
Je vais me permettre un rajout, une parenthèse. Leslie Kline, j'ai eu la chance, c'était un plaisir de la rencontrer aux rencontres de Châlons-en-Champagne. Les rencontres européennes en octobre 2005, et elle accompagnait Bud Hopkins, voilà, qui était en France, qui était venu faire des conférences lors de ce congrès, ce grand symposium.
Mmh. Voilà, voilà. Oh, j'y étais aussi, mais je ne l'ai pas rencontré. Donc, ça vous donne, pour les auditeurs, ça vous donne une idée. Donc, vous voyez, les gens, ils sont dans le New York Times, ça doit être une journaliste du New York Times lambda qui travaille sur les ovnis, mais en fait, vous voyez que c'était quelqu'un qui était déjà dans des rencontres ufologiques en 2005, plus de 10 ans avant l'écriture de l'article en question, quoi. Et puis après, donc, il y a 2-3 mois, je n'ai pas été rechercher la date, mais donc, il y a eu Grush, qui est donc un ex-militaire américain, qui est passé sur une chaîne de TV qui s'appelle News Nation. Donc News Nation n'est pas vraiment une chaîne prestigieuse. En fait, elle était totalement inconnue de la plupart des gens. Et en gros, ils font de l'audience en surfant sur le sujet OVNI, quoi. La plupart des gens, la plupart des sceptiques que je suis ont découvert la chaîne en question avec des événements. Et puis alors, voilà, tout ça a amené finalement à une audition il y a quelques semaines pour devant le Congrès américain, quoi. ça, c'est la timeline. Et alors, bon, juste pour remettre les éléments en place. Donc, en fait, évidemment, les ufologues, tout ça, ils espèrent que ça soit ce qu'on appelle disclosure, donc la révélation, je ne sais pas comment on traduit disclosure, la révélation, la vérité, que le gouvernement dise enfin. Qu'est-ce que tu penses, toi, de disclosure et de... Est-ce que tu attends disclosure de tous tes vœux, comme la plupart des ufologues?
Non, je ne suis pas dans cette position-là. Moi, c'est, moi je, comme, je l'ai dit, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, moi, l'ufologie, c'est surtout une recherche de la vérité, quelle qu'elle soit. Donc, c'est travailler sur des témoignages, enquêter de la manière la plus sérieuse possible et la plus approfondie possible. Et puis après, trouver des solutions, trouver des éléments, et quels qu'ils soient, voilà. Donc, je suis ouvert à tout, mais je ne prends rien au départ, quoi, voilà. Je reste prudent, j'essaie de faire un travail de qualité.
Oui, je trouve que l'attitude est très différente, ou au CNEGU, ou même, il y a même des ufologues plus tenants qui ont la même attitude, qui consistent plus à enquêter sur les cas. Mais aux États-Unis, et parfois un peu chez nous aussi, mais il y a vraiment des gens, ils pensent vraiment plutôt enquêter sur les cas. Ce qui compte, c'est harceler le gouvernement américain pour qu'il révèle la vérité. c'est totalement une autre démarche, en fait. C'est très particulier, quoi.
Démarche qui est arrivée tardivement en France, hein, quand même. Hein. Il y a eu des tentatives dans les années 80 plutôt, je me rappelle, de certains groupes. Puis après, c'est en train de se remettre en place, évidemment, puisque c'est l'influence américaine qui est derrière, quoi, forcément.
Oui, et puis comme tu viens de le dire, ce n'est pas nouveau, quoi. Ça fait déjà longtemps que les gens disent que le gouvernement sait et qu'il faut le forcer à dire quelque chose, quoi.
Et, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'ufologie, déjà les livres en parlaient, les magazines en parlaient, les revues, etc. Ça, c'était dans les années 70. Mais tout ça, quand nous, on lisait ce qui était dans les années 70, ça datait des années 50, quoi, voilà. Donc, dès que le phénomène est apparu, que les premières années ont commencé à se mettre en place, il y a eu, évidemment, toute une histoire de l'ufologie qui s'est mise en place, dont ce besoin d'aller au contact avec le gouvernement pour lui faire lâcher des informations. Enfin, le gouvernement et les militaires, évidemment.
Oui, alors il y a vraiment quelque chose lié au gouvernement américain. Enfin, c'est très américain comme ça. C'est le gouvernement américain qui saurait la vérité. Référence à... On va peut-être faire quand même un clin d'œil à X-Files, voilà, comme ça c'est fait.
Depuis 95, c'est sûr qu'on... Là, c'est bon, on a des générations qui sont bien influencées maintenant.
Mais, donc déjà, il y a un problème que je soumets souvent aux gens qui, sur Twitter, qui discutent de ça, c'est donc même Crush va dire que voilà, il y a quasiment un ou deux crashs de vaisseaux extraterrestres par an, donc c'est déjà un rythme de crash assez soutenu, quoi, un peu partout dans le monde, et que donc les gouvernements récupèrent de la technologie qui est en fait rétro-ingénierée. Bon, déjà le problème avec ça, ça veut dire que la conspiration, elle devrait être totalement mondiale, que la Chine, la Russie, tous les pays devraient s'être mis d'accord de rien dire.
C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, Grosch, il parle que des États-Unis, mais peut-être qu'il a suggéré que dans d'autres pays, c'était la même chose. Effectivement, je suis d'accord avec toi, ça pose plusieurs questions, grandes questions sur une technologie extraterrestre, quoi, qui ne serait pas fiable, quoi, qui n'aurait pas développé des moyens d'approche de planète avec tous les problèmes liés à une approche planétaire. Quoi, voilà. Ça semble un peu curieux, quoi, pour des hautes technologies, de se faire avoir comme ça si facilement, alors qu'ils ont développé une civilisation et une science qui leur permet d'évoluer entre des mondes, quoi, voilà.
Ouais, là, t'abordes déjà un autre argument. Donc, le premier, là, on couvre vraiment les bases, mais le premier argument, c'est un complot mondial. Oui, donc, Grosch, c'est vrai que ça dépend quand est-ce qu'on voit où il parle, quoi. C'est vrai que il s'est réfréné plus pendant le hearings, devant le congrès, mais dans ses interviews, il raconte, il a parlé du Vatican qui aurait récupéré
l'affaire du crash de 33.
Ouais, voilà. C'est là. Et donc, le Vatican, c'est pas les États-Unis. Le Vatican était très surpris d'entendre qu'ils avaient. D'après Grosch, ils auraient transféré le vaisseau aux États-Unis.
Alors, c'est ça, tout à fait.
Tu dis déjà, pour cette histoire-là.
C'est vrai que le principe du secret, du complot, on en avait déjà parlé. D'ailleurs, si on avait changé un petit peu, j'avais trouvé un article sur dans un magazine scientifique que j'ai mis sur une page Facebook qui concerne justement la notion de secret et comment peut-on cacher un secret, quel est le nombre de personnes qui est impliqué, le nombre d'années qui est impliqué et les difficultés que ça pose, voilà, dans le temps. Même si on cloisonne les informations comme ça peut se faire dans certains domaines, au bout d'un certain nombre d'années, l'information ne peut pas être gardée. Il y a trop de gens qui sont impliqués dans des gros projets. Quoi. Voilà.
Ah ouais. Puis pour l'OVNI du Vatican, par exemple, s'il a fallu le transporter aux États-Unis, il fallait l'emmener par bateau. Enfin, ça implique tellement de logistique. Ça n'a jamais...
Voilà. Quand on pense à l'avion, oui. Wow.
Oui, alors l'argument que tu évoquais, toi, c'était l'argument de la fréquence des crashs.
Oui.
Ça, c'est, MeQuest, il a parlé de ça en comparant ça au nombre de crashs sur le territoire américain par des vols d'avions classiques. On a une technologie supposément beaucoup moins fiable que les extraterrestres, mais en fait, en fréquence, on n'a pas tellement de crashs sur le territoire. Donc, en fait, les vaisseaux extraterrestres, pour avoir deux crashs par an, il faudrait qu'ils soient vraiment très foireux technologiquement.
C'est surprenant, voilà, tout à fait, oui.
D'accord. Oui, alors évidemment, il y a la question de pourquoi le secret. Donc, l'idée généralement chez les ufologues, c'est que pourquoi est-ce que les Américains cacheraient la vérité sur tous les gouvernements du monde, suivant la version. Et donc, l'idée générale, ça serait parce qu'on il y a ça, la vérité serait trop difficile pour le grand public, on paniquerait tous. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Bah, c'est un argument qu'on entend depuis très très longtemps, cet argument, mais... Quand on voit comment on parle et comment le sujet est abordé un peu partout depuis des dizaines et dizaines d'années, je ne sais pas. Il peut y avoir des arguments pour et des arguments contre là-dedans. Est-ce qu'il y a une peur qui est liée à tout ce que ça pourrait remettre en cause au point de vue commercial, social? Religieux, j'en suis pas sûr. Enfin, c'est possible aussi. Je sais pas. Honnêtement, c'est comment dire une théorie qui me semble avoir des comment dire des bons côtés et des mauvais côtés aussi à la fois. Ça, c'est pas facile à trancher. Ouais. Ça peut remettre en cause certaines choses. Ça, c'est sûr et certain. Il y a pas de problème. Ouais.
Ah ouais. Oui, c'est vrai que enfin, moi, comme toi, je suis un peu dubitatif aussi. Je pense que depuis le temps qu'on rêve des extraterrestres, qu'on en parle dans les films de science-fiction, etc., je ne suis pas sûr qu'on serait très perturbé. En plus, j'imagine, enfin, il faudrait revoir d'où vient, il faudrait qu'un sociologue se penche sur d'où vient cette idée originellement, mais je ne serais pas étonné que ça vienne de la guerre des mondes, la panique de la guerre des mondes. Et, enfin, même si je remets souvent ça un peu en question, Pierre Lagrange a un bon bouquin qui montre que la guerre des mondes n'a pas été aussi. Pierre Lagrange, je dirais que la guerre du monde n'a pas du tout eu lieu. Ça, je ne suis pas totalement d'accord, mais je dirais que la panique a été relativement géographiquement limitée. Et ça n'a pas eu l'effet qu'on peut s'imaginer. Écoute, l'entièreté des États-Unis aurait complètement paniqué. Ça, ce n'est pas vrai. Quoi, mais,
Et tu vois, si on relie cette idée de, comment dire, les gouvernements cacheraient ça pour ne pas, déstabiliser la civilisation terrienne. Je trouve que là, il manque quelque chose, parce que s'ils sont censés avoir de la technologie extraterrestre depuis les années 50 et qu'ils sont censés l'avoir étudiée, pourquoi ils ne la mettent pas en œuvre pour avancer, faire un bond technologique énorme et justement atteindre un niveau où il n'y aurait aucun problème s'il y avait une ouverture au niveau des extraterrestres. Voilà. S'il y avait vraiment une apparition d'une civilisation extraterrestre, ben là, on serait à un niveau ou quelque chose qui nous permettrait d'avoir moins de chocs entre les civilisations.
Oui, tout à fait. Oui, donc il mentionne donc Grosch dans son interview là, à News Nation, il a mentionné donc les fameux crashs dont on a discuté. Le fait que des corps auraient été retrouvés, bon, tout ça, ça fleure bon Roswell. Quoi. Donc sur Roswell, je blanque sur son nom, il y en avait un de la bande qui avait écrit, c'était Eric, le livre sur Roswell, c'était le premier mythe. Ouais. Enfin, sinon, si tu as des recommandations pour expliquer pourquoi.
Dernier témoin, non
Oui, mais je cherchais en français, ouais.
Ah bah la version française existe.
Ah oui, bah oui, bah oui. Et c'était, tu viens du titre?
Eh ben, je crois, enfin, j'ai dans la bibliothèque pas loin, mais. Ah, comment ça s'appelle? Le bouquin de Charles Berlitz, c'est William Moore, qui est sorti en
Ah oui, bien
68.
sûr, oui. Oui, donc
En
ça, c'est
version
le livre
française.
qui a. Oui, tout à fait, oui, bien sûr, c'est de ça que tu parles. Oui, ça, c'est le livre qui a popularisé l'idée de Roswell dans les années.
Pour le public francophone.
Ouais, dans les années 70-80, enfin, ouais, dans
C'est
ces
ça,
eaux-là.
ouais.
Bien après le crash, quoi.
Ah
Ouais,
oui,
c'est ça.
ouais, c'est plus de 30 ans après, c'est sûr.
Au départ, il n'y avait pas grand-chose, et puis.
Bah,
Bon, on
tu sais que
va.
là,
Ouais.
finalement, grosso modo, l'affaire, c'est ce livre-là, ouais, c'est à partir de 78 qu'on entend parler des corps extraterrestres, parce qu'avant, ça reste plutôt confidentiel, quoi, l'affaire des corps. On ne connaît que l'histoire du crash qui a, comment dire, un public, c'est plutôt américain, plutôt côté américain, et c'est à partir de 78 que là, le public francophone en entend parler, quoi.
Ouais, mais même, non, mais enfin, je veux dire, je suis plus familier avec la littérature anglo-saxonne que
Ah oui,
toi,
d'accord,
et
ok.
c'est vrai aussi dans le monde anglo-saxon, hein, c'est Roswell c'est Berlitz, c'est Moore, ouais. Oui, le titre, c'est The Roswell Incident, hein, le mystère de Roswell.
D'accord.
Voilà. Oui, donc pour ceux qui veulent en savoir plus, donc les explications qui ont été proposées, c'est évidemment le ballon mogul, on va pas revenir là-dessus, mais donc Gilles Fernandez a écrit un livre qui s'appelle Roswell, rencontre du premier mythe, qui résume bien l'approche sceptique du cas, quoi. Et alors, ouais, il parle aussi de meurtres faits par le gouvernement. Je sais pas si il n'a pas mentionné les Men in Black, mais c'est ça l'idée que ça donne, quoi. Et puis, ou même que les extraterrestres tueraient des humains, quoi. Voilà.
Bah, les pressions, c'est sûr qu'il dit avoir subi des pressions, etc., ou des menaces qui sont typiques, voilà, de ce qu'on entend en ufologie depuis très longtemps, quoi, voilà.
Bon,
Ce qui est très
évidemment,
possible, hein.
oui.
C'est sûr et certain qu'à une certaine époque aux États-Unis, il y a dû forcément y avoir des opérations d'intimidation, c'est sûr et certain.
Oui, parce que ce qu'il faut se rendre compte avec Grush, c'est que c'est vraiment un militaire qui a vraiment eu accès à des informations top secrètes.
Parfait.
Le problème, c'est qu'on pense, enfin, l'idée sceptique, je pense, globalement, c'est qu'il a mal interprété. Enfin, donc, il a rien vu lui-même, il a eu accès, il a aucune preuve.
C'est ça. Il
Il a
connaît
juste
des
en.
gens. Il connaît des gens qui ont des documents. Ou qui ont vu certaines choses. Donc c'est, tu vois, c'est quelqu'un, c'est pas un témoin direct, une fois de plus, quoi.
Du coup, ouais, non, évidemment, ouais, que les Américains ont des programmes top secrets et qu'il peut avoir des pressions de ce côté-là. En fait, ce qui est souvent suggéré, enfin, ce qui est suggéré par MicQuest et d'autres, c'est que oui, il y a eu des programmes probablement pour retrouver des objets au sol et pour les rétro-ingénierer, mais c'était probablement en fait des sous-marins. On sait que ça s'est produit au moins pour un sous-marin russe, mais on l'a vu avec le truc du ballon chinois là récemment. Bah, les nations étrangères, elles envoient
Après,
des trucs.
il est possible aussi qu'il y ait d'autres types d'appareils qui aient été abattus, d'appareils russes ou peut-être chinois, des avions peut-être à une certaine époque, avions espions, et puis ben, ça c'est rentré aussi dans cette problématique.
Ouais, c'est
C'est
ça.
vrai que c'est devenu très actualisé, très actuel avec l'affaire des ballons chinois, enfin des ballons. Entre guillemets, il y en a un qui est certifié chinois. Après les autres, on ne sait pas, on n'a pas, ils nous ont pas filé les informations complémentaires. Il y en a au moins un qui était chinois en février, c'est sûr.
Ouais, finalement, pour nous, enfin, en tout cas pour moi, en tant que sceptique, le truc le plus étonnant, c'est qu'apparemment, dans les services secrets américains, il s'est tellement cloisonné, on a dû donner à un ingénieur un morceau d'un engin, voilà, d'origine étrangère, mais pas extraterrestre. Et le mec, il a fini par être convaincu qu'il travaillait sur un engin extraterrestre. C'est la partie la plus, voilà. Enfin, bon, pour moi, ça montre plus la puissance de la mythologie ufologique qu'autre chose,
Pas
mais.
possible, ouais. Effectivement, ça se tient.
Et alors, ouais, donc son interview, en plus, le truc le plus marrant, c'est qu'elle a été approuvée par le département de la défense, le DOD, quoi, Department of Defense, qui a un système. Quand on a travaillé dans des programmes top secrets, si on veut parler en public, puisqu'on ne peut pas juste pointer à la TV et dire tout ce qu'on a appris une fois qu'on est à la. Parce qu'il a pris sa retraite maintenant, je crois. Il travaille comme agent immobilier maintenant, je pense. Sauf si. Ouais, enfin, j'allais faire une remarque sarcastique sur le fait qu'il va commencer une carrière d'ufologue public en faisant des documentaires et des machins. Mais, ça, c'est une.
Donc, elle était, avant de parler en mois de juin, de
Ouais.
manière officielle, il était déjà en contact avec des ufologues, c'est sûr.
Ouais, c'est clair. Ouais. Ça, on va y arriver après, je pense, mais c'est un point crucial, effectivement. Ouais, donc, oui, donc l'approbation par le DOD, ça, donc, si tu veux, si tu as fait partie de programme top secret, tu veux aller parler en public à la TV, tu dois te faire un système de clearance comme ça où on t'autorise à aller parler à la télé. On te dit aussi, tout ça, c'est bon, vous pouvez le dire, il n'y a pas de problème, parce que dans le fond, ce n'est pas réellement classifié. Or, il a fait le processus. Et le DOD, le département de la Défense, a dit, ouais, tu peux y aller, tu peux raconter tout ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils disent que c'est vrai ce qu'ils racontent. Ça veut juste dire qu'ils
Autorise.
autorisent, qu'ils considèrent que ça ne pose pas problème, quoi. Bah, c'est quand même un argument fort contre toute
Ben,
son
c'est
interview,
surprenant,
d'ailleurs.
effectivement. Mais...
Parce qu'évidemment, s'ils avaient un vrai programme secret, ils ne le laisseraient pas parler comme ça, quoi. Ils n'auraient pas accepté, quoi. Voilà.
Ou alors, enfin bon, l'argument peut... Enfin, tu vois, je vais me faire l'avocat du diable,
Ouais,
mais
vas-y.
ça peut aussi se voir dans l'autre sens. Ils le font, ils peuvent le faire volontairement ou involontairement. Enfin, tu vois, enfin, à mon avis, c'est pas involontaire, quoi, voilà. Mais d'une façon ou d'une autre, ils savent très bien ce qu'ils font.
Oui, bah, souvent c'est un truc, les Américains ils appellent ça spy ops, quoi. C'est des opérations de désinformation. Mais désinformation pourquoi? Enfin, l'idée que les Américains ont eu des opérations de désinformation à base d'ovnis, bah. Bon, évidemment, les ufologues tenants, ils vont dire c'est pour cacher la vérité sur les ovnis, mais en fait,
Là, je le vois plus dans l'autre
ça pourrait
sens.
être caché, ouais, ça pourrait être pour cacher la vérité sur d'autres choses plus
Bah,
terrestres, mais.
enfin, je pense qu'on doit pouvoir trouver des exemples, mais bon, là, il faut faire appel à des historiens ou des spécialistes des archives, mais aux États-Unis, il est certain que certaines opérations ont été cachées sous un brouillard, sous un parasitage ufologique pour pouvoir avancer tranquillement. Moi, je pense que, par exemple, l'histoire des Men in Black, il y a ça. Le fait d'aller faire peur à des gens, ou peut-être dans certains cas se déguiser, ou en appuyer encore plus sur le domaine ufologique, c'est pour créer une légende qui cache des choses qui n'ont pas à être montrées, quoi, voilà.
Oui, pour moi, c'est aussi un. Enfin, c'est un mélange de ça et puis de création purement fictionnelle de certains auteurs peu scrupuleux qui,
Oui,
dans la littérature
il y a de ça,
ufologique, qui.
comment dire, ou de personnages qui se méprennent, ou qui n'ont pas, comment dire, des idées, les pieds sur terre, et puis qui ensuite, ça y est, se font un film. Donc, voilà.
C'est toujours le problème, enfin, il n'y a pas une explication unique, c'est une
Oui,
combinaison
tout à
d'éléments qui
fait.
interagissent les uns avec les autres.
Exactement. Ouais.
Ouais, donc, oui, alors le point important que tu disais, ça c'est crucial évidemment avec Grush, c'est que, ouais, après tout ça, évidemment, donc les enquêteurs sceptiques, ouais, il y a Mick West et puis l'autre, comme ça, donner des bonnes sources. Alors, c'est des enquêteurs qui sont dans le monde anglo-saxon, donc bon, voilà, il faut. Soit connaître l'anglais,
Voilà, c'est sûr, certain.
soit utiliser les intelligences
Ah bon.
artificielles pour traduire, quoi, c'est ce qu'on
Pour
fait
me tenir
beaucoup.
un peu au courant, moi, c'est sûr que là, je fais chauffer le traducteur sur Internet, là.
Voilà. Ouais, c'est un autre que je recommande aussi pour si vous maîtrisez l'anglais en termes de vidéos YouTube, c'est la chaîne qui s'appelle le New York Post. Et alors, c'est Steven Greenstreet, hein, qui a fait beaucoup de travail sur le Skinwalker Ranch. C'est ce à quoi on est en train d'arriver, quoi. Oui, donc en travaillant sur ces sujets-là, enfin, ils ont trouvé des photos de Grush à une convention ufologique il y a je me souviens plus de la période, mais au minimum quelques mois, si pas un an ou deux, où il est en train de parler avec des ufologues assez anglo-saxons, assez célèbres, parce qu'ils sont connectés à ce qu'on appelle le Skinwalker Ranch, quoi. Et je pense qu'il y a aussi de mémoire, ils ont aussi retrouvé que des ufologues lui ont parlé à une convention Star Trek. Ça, c'était le truc complètement. C'est là, ok.
Bon, qui peut s'intéresser à Star Trek aussi.
Oui, mais c'est juste marrant, quoi, que tous ces individus se retrouvent. Enfin, je suis fan de Star Trek aussi, donc mea culpa. En tout cas, voilà, il a été influencé par toute la bande. Et donc, le Skinwalker Ranch, c'est une propriété donc, qui est située, là je suis sur la page Wikipédia Skinwalker Ranch pour ceux qui veulent, dans l'état de l'Utah aux États-Unis. Et donc, en fait, c'est un groupe de chercheurs, entre guillemets, qui sont évidemment très influents dans toute cette affaire. Non seulement ils croient dans les ovnis, mais en plus ils croient dans les ovnis comme étant des entités transdimensionnelles. Hein, donc, et puis ils croient dans d'autres choses, ils font aussi de la chasse aux fantômes. Donc il y aurait beaucoup d'ovnis au-dessus de ce ranch. Et alors il y aurait aussi des skinwalkers, d'où le nom du ranch, donc c'est-à-dire des sortes de loups-garous comme ça. Donc c'est des gens qui ont des croyances très farfelues, qui sont un peu. D'ailleurs, certains d'entre eux étaient assis derrière les trois témoins lors de l'audition, qu'on voit qui sont. En fait, on est face à un petit groupe de personnes qui avec les Stikine, on a parlé au début, qui aussi en connexion avec ces individus, qui en fait font une sorte de lobbying, bizarrement, qui marche assez bien sur le gouvernement américain, à mon avis, parce que surtout les gars du Congrès, ils n'ont aucune idée, enfin, ils connaissent rien en OVNI, donc, enfin, c'est en tout cas. Et donc, ils se font un peu manipuler par tout ce groupe, quoi. C'est un peu ça l'idée que ça donne, quoi. Je regarde juste qu'est-ce que j'avais encore dit. Ouais, bah écoute, donc, pour le jour de enfin, le congrès, bon, on vient d'y arriver. Hein. Ouais, c'est vrai que les congressmen, ils ont l'air d'avoir leur cours de ufologie 101. Il y en a un qui pose de temps en temps une ou deux questions pointues. À ce moment-là, Grosch répond systématiquement qu'il ne peut pas répondre en public et qu'il peut seulement.
C'est
Donc,
ça.
enfin, de nouveau, il.
Il
Ouais.
demande qu'à répondre en comité restreint, quoi. Il demande une commission spéciale pour en dire plus.
Ouais.
Et c'est vrai que pour le moment, moi, il me donne cette impression de botter en touche, de repousser un peu quand on lui demande de prouver ce qu'il avance, de donner des éléments concrets. Pour le moment, il les amène pas sur, il les a pas amenés directement, quoi. Voilà.
Oui, totalement. En fait, avant juste la séance du congrès, les gens s'imaginaient que ça allait être le jour du disclosure, là, de la révélation. Et puis finalement, ils n'ont amené aucune preuve. Et les trois témoins qui étaient là, donc il y avait Grush, David Fraroff et Ryan Graves, sont des gens qu'on connaît déjà. Donc, je veux dire, il n'y avait rien de nouveau en réalité. Hein.
Si j'ai bien compris,
Fravor, pardon, Fravor, David Fravor, ouais, je dois prononcer leur nom convenablement.
j'ai bien
Ouais.
compris, il n'y a que Grush qui avance des éléments, des arguments liés au crash et puis à la rétro-ingénierie, au corps, quoi, voilà, ces études-là. Les deux autres sont plus là en tant que témoins d'observation, de manière officielle, de par leur métier ou ancien métier. Voilà, ça me donne plus cette impression-là. C'est deux personnes qui sont venues en plus pour ajouter du poids à ce que cherche Grush, quoi.
Ouais, totalement, totalement. Mais en fait, avant le jour de la du congrès, on ne savait pas qui allait être parmi les témoins. Et en fait, étonnamment, voilà, en fait, parce que donc David Fravor, il avait déjà témoigné. Enfin, il a commencé à expliquer
Pas très
publiquement son témoignage en
immédiat, oui.
2017 et Ryan Graves en 2019. Donc, en gros, ils n'ont absolument rien présenté de nouveau, quoi.
Non, le seul truc, c'est que grave. Lui maintenant, il est très actif puisqu'il a créé un groupe de pilotes, donc pour étudier les observations UAP. Donc, il est devenu vraiment actif au niveau de l'ufologie à un certain niveau. Voilà.
Oui, alors ce qui est super important aussi de rappeler, donc on l'a déjà dit, Grush, il a absolument rien vu lui-même, il fait que du discours rapporté. Hein. Je connais des gens qui, enfin, je connais, j'ai pas vu l'ours, j'ai vu la personne qui a vu l'ours. Et je veux dire, il a même pas vu, non seulement il a pas vu la soucoupe volante, enfin les soucoupes volantes, enfin les ovnis, ou les, c'est vrai qu'ils utilisent UAP maintenant, Unidentified Anomalous Object,
Phénomène aérien non
Unidentified
identifié,
UFO,
voilà,
oui,
c'est la
phénomène aérien
version
non
pas
identifié.
américaine, quoi.
Ouais. Et en plus, maintenant, la NASA utilise Anomalous, donc phénomène anormaux non identifié, c'est encore plus vague qu'avant. En fait, plus
Tout
on
à
avance,
fait.
plus c'est vague.
C'est ça, tout à fait.
Ça peut être n'importe quoi, ce stade. Non, mais de toute façon, enfin voilà, moi je dis toujours, c'est juste, ouais, enfin mon opinion là-dessus, c'est juste du rebranding. Ils changent le nom pour ceux des plus sérieux, mais
Oui,
c'est
ouais.
toujours des ovnis, quoi. Oui, donc Ryan Graves n'a rien. Ah oui, donc Grush, je disais, il a pas vu les soucoupes, mais il a même pas vu des preuves secondaires. Quoi. Il a même pas vu une photo des vaisseaux. Il a pas vu. On lui a même pas présenté une
Je
pièce.
crois qu'il. Alors là, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il a rencontré des gens qui lui ont montré des documents. Voilà.
Oui, enfin, en tout cas, il dit qu'il a rencontré des gens qui lui ont montré des
Ça,
documents. Ouais, c'est ça.
voilà.
Ouais. Mais je suis même pas sûr. Ouais, t'as raison. Mais je suis pas sûr. Ça, oui. Maintenant, je pense pas qu'il ait vu une photo, quoi. Mais donc, je crois que c'est des documents. Il faudrait aller voir, quoi,
Oui,
qui
voilà,
remonteraient
c'est ça.
au cover-up, quoi. Mais de toute façon, il est tellement vague et il présente jamais ni les documents en question, ni les personnes. En fait.
Il a dit qu'il va donner une liste où il a donné une liste de
Ouais.
personnes.
En fait, c'est ces gens-là qui auraient dû être à l'audition et pas Grush, quoi.
C'est sûr,
Si.
c'est sûr.
Parce que d'ailleurs, ils appellent ça.
Peut-être que ces gens-là voulaient pas justement aller en audition.
Ouais. Parce qu'ils disent que c'est un whistleblower, un signaleur d'alerte, mais en fait, il y a des gens qui disent que c'est même pas réellement un signaleur d'alerte, puisqu'il est seulement la personne.
C'est ça.
Voilà.
Normalement, les lanceurs d'alerte, ils amènent des choses. Tu vois, un Gary McKinnon, il avait des données, voilà, quand il a parlé.
Donc ça, c'était Grush. Et alors, bah, Ryan Graves, en fait, il n'a pas vu d'OVNI non plus, quoi. Donc il y a deux témoins qui n'ont jamais vu d'OVNI. Ryan
Alors,
Graves, en fait, ce qu'il a
je
vu,
sais pas
ouais,
si Grèce il a pas fait une observation, mais
en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il voyait, parce qu'il dit tout le temps qu'il a vu des choses, mais ce qu'il a vu, en fait, c'est seulement des détections radar. Donc en
pas.
fait, c'est seulement des
Effectivement,
bulles.
il n'a pas fait une observation visuelle
Ouais, c'est ça.
avec ses yeux.
Mais c'est quand même un truc important, quoi. C'est pas voir des blips sur un radar, c'est pas la même chose que de voir un. Parce
C'est
que
pas la même
bon,
chose.
il y a beaucoup l'argument d'autorité, hein, qui joue parce que c'est des militaires, des pilotes et des machins, donc ils pourraient pas se tromper, blablabla, enfin le truc habituel, quoi.
On connaît cette problématique, malheureusement, quoi. Quand on a travaillé sur. Quand on a fait des enquêtes, on est quand même. C'est un certain nombre d'avoir fait des enquêtes de terrain, avoir fait des études de témoignages. Et puis, il y a un très bon bouquin là-dessus, là, qui est sorti. Tu sais, le bouquin de Le Collectif, qui a été édité par Lupiard, qui est un énorme pavé de 700 pages, où on connaît la problématique de l'argument d'autorité. On sait très bien qu'on a des gens qui sont censés être qualifiés de par leur métier et qui sont de mauvais témoins, voilà, ou qui ont des problèmes. Enfin, c'est pas forcément le métier qui fait la bonne mémorisation et le bon transfert d'informations.
Oui, donc les livres en question, c'est The Reliability of UFO Witness Testimony,
Tout à fait.
éditeur scientifique Vincent Juan Ballester-Olmos. Donc en français, la fiabilité des témoignages humains. Moi, j'ai un chapitre dedans, enfin, un second auteur
Ok,
avec
c'est
Eric
bon.
Mayo, ouais, enfin, voilà, c'est une brique. Ceux qui veulent vraiment se plonger dans la littérature scientifique sur les ovnis, c'est la nouvelle référence.
Et puis là, il y a un paquet de chercheurs là-dedans. Là.
Oui, donc pour Ryan Graves avec ses blips, en fait ils avaient mis à jour, enfin ils ont amélioré leur système de détection radar et à partir de ce moment-là, des anomalies radar sont apparues sur leur truc. Bon, alors évidemment que les radars, ça peut soit être des artefacts, donc carrément des choses qui sont pas réellement là. Mais ici, enfin Mick West, pardon, en fait c'est dans une région où. Évidemment, en fait, des ballons, simplement des ballons gonflables, donc les Mylar ballons, les ballons gonflables, comment dire, métallisés, classiques, pourraient générer ce genre de blip probablement. Et alors aussi, on revient sur le truc, mais parce que donc, Ryan Graves parle d'un pilote qui aurait vu quelque chose visuellement. On est de nouveau dans le même truc, quoi. Alors on est toujours là. Pourquoi est-ce que c'est ce pilote-là qui n'est pas venu? Et alors il décrivait une sphère avec toute une forme dedans, etc. Mais en fait, ce qu'il décrivait, ça pouvait ressembler à des choses qui ont été construites de technologies de donc évidemment, ça peut ressembler à un drone, évidemment, ou alors des ballons pour jammer les radars, là, pour interférer avec les radars. Donc on serait de nouveau sur de la technologie. Chinoise qui passerait dans le coin et qui serait détectée par le radar. Et évidemment, tout ça n'a pas du tout été évoqué lors du congrès. En fait, le congrès semble tout le temps. Alors, en fait, les hypothèses alternatives, en fait, on ne sait pas, ce que je viens de dire, c'est des hypothèses explicatives alternatives, mais bizarrement, elles n'ont pas du tout été évoquées, quoi. C'est vraiment. Voilà. Ouais, vas-y, vas-y.
De cette intervention-là des trois personnes, Je pense que celui qui a eu peut-être les paroles les plus sages, je crois que c'est Fravor qui a eu les paroles les plus sages en disant, bon, il faut plus de transparence, il faut quand même qu'il y ait un accès plus facile aux informations, aux données gouvernementales et militaires. Et puis, si on est face à un problème, ben, on l'étudie de manière scientifique, et si on est face à un problème de sécurité nationale, on agit en fonction. Voilà, c'est ça, mais il faut travailler dessus pour savoir à quoi on est confronté.
Oui, tout à fait. C'est vrai que des trois, ça semble être le plus raisonnable, entre guillemets. Et oui, pour dire David Fravor, donc lui, il a une observation, on l'appelait surnommée l'observation tic-tac. Bon, un des problèmes immédiats qui est avec cette observation, c'est que dans des interviews, Fravor dit que l'observation a duré 5 minutes, mais il avait une copilote qui dit que l'observation a maximum duré 10 secondes. Donc, en 10 secondes et 5 minutes, ça fait un fameux écart entre les deux témoins. Enfin, voilà. Voilà. Donc là, on est en train de soulever des points, en fait, qui auraient dû être soulevés par les personnes du Congrès s'ils avaient été un peu au courant du dossier, un peu comme nous, on l'est. Et qui a, enfin, les mecs qui étaient là-haut du Congrès, ils ont tout, entre guillemets, gobé comme, sans aucune remarque critique par rapport à ce qu'on leur disait, etc., quoi.
Alors peut-être qu'ils étaient dans, comment dire, on leur avait présenté la chose comme, je ne sais pas au départ comment ça se passe. Moi, je ne connais pas trop comment dire, le système de comment travaille le gouvernement américain. Quand tu veux poser une question officielle au Congrès, tu envoies forcément une lettre ou un message. Donc, tu présentes ton sujet, tu fais une synthèse. Et le document de départ, je ne sais pas s'il est disponible sur Internet, voilà, si on peut y accéder, comment la chose a été posée. Et après, bon, après comment dire, les responsables du Congrès, quand ils sont face à ces gens-là en commission, est-ce qu'ils ont le temps de travailler avant en amont pour en savoir plus, ou alors est-ce qu'ils prennent les sujets qui leur sont présentés les uns après les autres et qu'ils découvrent en direct lorsque les personnes qui sont invitées à parler sont face à elles, quoi, voilà. Face à eux. Je sais pas, ça ne connaît pas.
Ouais, je pense de mémoire, je ne suis pas totalement sûr. C'est vrai que ça c'est la partie qui est vraiment compliquée parce qu'on n'est pas familier du système
Oui,
américain. Mais
administratif,
je
quoi, voilà.
pense qu'il y avait un document quand même préparatoire qui leur a
Forcément.
été soumis un peu à l'avance. Mais en tout cas, et je pense qu'il était même disponible sur le net. Mais c'est vrai qu'en tout cas, s'ils l'ont lu, ils n'ont pas fait d'efforts vraiment pour avoir un contre. Oui, ou avoir des sceptiques, l'avis des sceptiques, etc. Mais alors. Oui, enfin oui, oui, je pense que pour l'audition du Congrès, on a un peu fait le tour. Qu'est-ce que tu penses du
Oui,
coup? Ouais,
ouais,
je pense.
ouais.
Parce que donc il y a le truc que la NASA a un service d'études des ovnis maintenant, avec Kirkpatrick qui est à sa tête. Et donc ils ont réuni une sorte de panel avec tous des gens, dont des sceptiques. Hein. Il y a Michael Shermer qui en fait partie, des journalistes scientifiques, etc. Enfin, ils ont
Crois qu'ils sont
réuni.
16.
Ouais, c'est ça, dans ces eaux-là. Ouais. Et qui discutent un peu. Alors, ils doivent remettre un rapport, non pas sur est-ce que les ovnis sont vrais ou pas, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la NASA étudie mieux les pannes, quoi. C'est une sorte de ce qui est assez raisonnable, quoi. Je veux dire, c'est pas. Mais alors, donc,
Vrai
la
qu'ils
personne en charge,
demandent,
c'est. Ouais,
si j'ai
vas-y.
mes souvenirs sont bons, c'est vrai qu'ils se rendent compte quand même que il faut qu'il y ait plus de souplesse, que les données remontent plus facilement à eux, à la NASA, cette commission, à la NASA, ce groupe, pour faire des études intéressantes, quoi, pour avoir de l'eau à leur moulin. Parce que pour le moment, apparemment, ça n'a pas l'air de se mettre en place si facilement que ça, quoi.
Oui, donc en fait, ils doivent faire des recommandations méthodologiques, quoi, en gros, dans quelques mois, je ne sais plus quand il y a une date
D'accord.
limite pour un rapport. Enfin, tout ça, voilà, quoi, tout ça a l'air très bien. Mais donc la personne responsable, c'est Kirkpatrick, et puis voilà, il n'a pas été. Donc, qui est un peu l'équivalent du responsable du GEPAN pour la France, quoi, maintenant. Mais ouais, il n'a pas été consulté sur tout ce truc. Enfin, d'ailleurs, le lendemain, il s'est fendu d'un message privé, enfin, comment dire, en son nom propre.
Oui,
Pas
tout à fait.
privé, sinon
Au nom du groupe de la NASA, oui.
pour dire que c'était un peu. Et donc, il dit que lui,
C'était
il
un
a
peu une
aucune.
insulte
Ouais.
pour le groupe.
Bah, clairement, quoi. Et ouais, il dit qu'eux, ils n'ont accès, enfin, ils n'ont eu accès à aucune preuve d'un tel complot, enfin, donc, par rapport à ce que dit Grush, quoi. Voilà, évidemment, les conspirationnistes disent que c'est normal que la NASA n'ait pas accès, quoi. Enfin,
C'est
bref.
ça, oui. Et que c'est normal que la NASA dise ne pas avoir accès.
Oui, ça dépend à quel niveau se trouve la conspiration, quoi.
C'est ça.
Cool. Ouais, voilà, je pense qu'on a fait un super bon tour de toutes les informations un peu. Voilà, je crois qu'on a intéressé le porté de la situation
Ouais.
maintenant. Voilà, dans le grand public, parce que nous, on est baigné dans le sujet depuis des décennies. Évidemment, dans le grand public, voilà, les chances sont convaincues. C'est vrai, maintenant, les Américains ont révélé qu'ils étaient en contact avec les extraterrestres. Enfin, il n'y a absolument aucune distance critique par rapport à tout ça.
Ça dépend. Enfin, moi, de ce que je lis,
Vas-y.
alors bon, évidemment, c'est pas forcément un retour du public, hein, mais c'est de ce que je lis dans les médias francophones, c'est plus une impression, enfin, y a une espèce de méfiance, une espèce de comment dire, ils sont étonnés, un espèce d'étonnement face à cet événement. J'ai plus cette impression-là, voilà. Après, quand tu discutes avec certaines personnes, c'est ou l'un ou l'autre, quoi. Voilà. Dès que tu rentres là, dans ce domaine-là, c'est les gens pensent que c'est, oui, effectivement, c'est le début de quelque chose qui va exploser. Et puis, tu as d'autres qui disent non, c'est que du spectacle, c'est du grand guignol, et comme on est habitué avec les États-Unis.
Ouais, c'est ça, c'est voilà, les Américains et les ovnis, c'est une longue histoire d'amour, quoi.
C'est
Mais
ça.
comment dire, ouais, moi j'ai enfin, ouais, dans les MP que j'ai reçus pour me réclamer à cet épisode, parce qu'au début, j'étais là, enfin, bon, bref. Et en plus, je suis passé à la TV aussi pour en parler sur la TV belge.
Faut
Mais
dire
alors,
quand
sur la TV belge, j'avais préparé tout ce que je viens de dire maintenant, enfin, c'était avant l'audition, enfin, je m'étais déjà bien documenté comme on a fait maintenant, quoi, pour savoir. Mais alors à la télé, enfin voilà, quoi, ils te demandent pourquoi les Américains. Enfin, c'est des questions vraiment tellement. Enfin, tu te dis, mais
basique.
pourquoi, ouais, tellement. Pourquoi je me suis embêté à préparer l'émission? Ça sert à rien, quoi. ouais, enfin, bon,
Il
bref.
faut dire aussi qu'en plus on manque de recul, parce que c'est vrai que ça va, enfin ça évolue, ces derniers mois ont évolué tellement vite, tu vois. Moi, j'ai voulu quand même ne pas dire de bêtises enfin, essayer d'en dire le moins possible. Donc, j'ai suivi ça quand même méthodologiquement, en surveillant certains réseaux sociaux, et puis en remontant la source pour aller sur les sites internet américains, notamment des médias, pour récupérer les informations, et me faire des fichiers, des dossiers, traduits en français, puisque moi, je suis assez mauvais en anglais. Donc, j'ai fait des traductions. Donc, j'essaye de comprendre un peu comment ça se passe. Et je vois que, ben, plus tu remontes dans le temps, parce qu'il faut récupérer l'histoire, finalement, le grand truc, c'est à partir de 2017, c'est à partir de là qu'il y a plein de trucs qui vont évoluer, qui vont se mettre en place. Et c'est une sorte de rebondissement les uns après les autres. Et puis, 2023, c'est vraiment beaucoup de rebondissements. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir un peu de recul et attendre un peu pour voir comment la situation évolue, se clarifie. Et c'est pas facile, voilà, c'est sûr.
Ouais,
Voilà, je disais.
ouais, tout à fait. Moi, c'est vrai que j'ai été invité à la TV après l'interview de Grosch sur News Station, News Nation. Bon, j'ai accepté parce que par principe, enfin, je vais quand il m'appelle, quoi. Mais c'est vrai que moi, je voulais pas faire d'épisode pour le podcast avant l'audition du Congrès parce que j'étais quand même, bon, voyons qu'est-ce qu'ils vont avancer comme cas ou comme élément. Bon, après, c'était décevant ce qu'ils ont avancé, mais bon, j'étais quand même curieux, quoi. Je me dis, quels témoins vont être là? On savait même pas vraiment. Enfin, on savait que Grush serait là, mais à part ça, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai quand même
Ça,
laissé un
c'était
peu donner le temps au temps, quoi, pour
une
voir
grande
un peu.
première, effectivement. Là, je pense que là, j'ai suivi aussi un petit peu les actualités, enfin, de ce qui se dit sur Internet. Je pense que le prochain événement va être intéressant. C'est la demande qui a été faite par plusieurs sénateurs américains et qui demande une décision concrète à être prise avant le 15 septembre, je crois. Et, enfin, il laisse un temps jusqu'au 26 pour avoir une réponse officielle sur la question. Donc, on va voir. Ben, voilà. On va dire que c'est la prochaine date qui peut être intéressante au niveau information. Après, le temps que la commission se mette en place, puisque c'est ce que Grosch avait demandé de son côté, je ne sais pas comment ça se fait de ce côté-là aussi. Je sais pas, c'est quand ça va avoir lieu, ça, c'est pareil.
Oui, de manière générale, ça vaut la peine de le mentionner pour les éditeurs. Et évidemment, bah, ils demandent souvent de déclassifier des informations que le gouvernement américain aurait sur les ovnis. Ça, je pense pas que ni toi ni moi ne disons que le gouvernement américain n'a rien, d'aucune information sur les ovnis. Ce qu'il a comme information, c'est le même genre d'information que le grand public a, c'est-à-dire qu'ils ont des cas d'ovnis dans leur voilà quoi, des militaires qui ont vu des choses, mais ils sont pas de voilà. Ils ont certainement des situations, des soldats, enfin voilà, des pilotes ont des. Mais après,
Ou
évidemment, une fois qu'ils.
des commissions
Ouais.
qui ont travaillé à certains moments, quoi.
C'est ça, quoi. Donc, potentiellement, je veux dire, on serait pas. Enfin, je veux dire, si tu, ça s'est déjà produit, quoi. C'est comme pour Roswell, quand ça a été déclassifié, les informations sur le projet Mogul qui était top secret. Donc, on a déjà été dans ce genre de situation. C'est pas étonnant que les Américains, voilà, cachent des choses. Qui cachent des choses, ça, c'est pas étonnant. Et qui cachent même des choses sur des cas d'OVNI, c'est pas étonnant. Mais ce qu'on pense pas, c'est qu'ils cachent pas des choses qu'ils auraient, voilà, qu'ils iraient dire bonjour au gris tous les samedis matins pour discuter, prendre le thé
Bah
avec eux. Ça, c'est
surtout,
pas.
surtout cacher et ne pas profiter d'informations qui pourraient les mettre en position ben, ultime par rapport à tous les autres pays sur la Terre, quoi. C'est ça qui semble surprenant.
Ouais, moi dans les contacts, oui, bah oui, enfin, j'ai des gens qui m'ont envoyé un MP en disant, ouais, il faut que tu fasses une émission parce que j'ai plein de copains qui ont été convaincus, voilà, c'est arrivé maintenant. Oui, et puis bon, c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui sont un peu, comme tu dis, curieux et qui m'ont contacté en me disant, il faut que tu en parles parce qu'on se demande quoi en penser finalement. Voilà, c'est vrai que c'est un peu les deux réactions. Mais moi, je pense que, enfin, oui, je veux dire, toi, tu t'intéresses au phénomène OVNI depuis encore plus longtemps que moi, mais. Il y a des vagues comme ça, c'est pas des vagues d'OVNI, mais c'est des vagues d'intérêt, de désintérêt par rapport au phénomène. Donc en fait, toi, tu as déjà connu des vagues précédentes. Bon, enfin, moi, j'en ai connu une en Belgique avec la vague belge. Moi, bon, j'étais adolescent, mais voilà, il y a une grosse vague. Et d'ailleurs, quand je pense à cette situation, je trouve que la SOBEPS, avec le groupe de personnes qui se trouvaient là, elle ressemble assez bien à l'équipe du Skinwalker Ranch, peut-être moins avec des croyances moins farfelues, mais je veux dire, c'est aussi un groupe de gens convaincus qui font du lobbying un peu sur le gouvernement pour qui frame l'information dans les médias d'une certaine façon, mais.
C'est bien, ça me permet de rebondir là-dessus en disant que, par contre, la différence entre l'équipe du Skinwalker Ranch et puis la SOBEPS, c'est que la SOBEPS, on a pu avoir accès au dossier et rencontrer des témoins directs de ce qui s'était passé, alors que moi, tu vois, je reste sur le. Alors, la lecture du bouquin de Knapp et Keller, qui était sorti maintenant il y a quand même quelques années, qui était la première version française de ce qui se passait là-bas, au Skinwalker Ranch. Et moi, ça m'avait frustré, parce qu'on parlait de plein de choses, de plein d'événements sur cette région, et tu pouvais pas accéder au dossier, tu n'avais aucune photo, tu savais pas quel était le matériel utilisé, enfin quoi, des vrais dossiers d'enquête sérieux sur un certain nombre de phénomènes enregistrés sur place. Et quand tu cherches, ben, si tu veux chercher des informations sur le NIDS, maintenant sur Internet, ben, t'as rien, quoi.
Oui, tout à fait. Je crois que
Ça a été enlevé ou c'est bloqué, voilà.
le Skinwalker, c'est, enfin, je dis oui, quand je compare la COBEPS, c'est clairement vraiment pire que la COBEPS. Dans le sens où, comme tu viens de dire, et en plus maintenant ils ont une émission de TV. Enfin,
C'est devenu une série télé.
c'est ça que j'appelle un cast de personnages, c'est assez
Mais tu vois, ça
surréaliste,
c'est.
quoi.
C'est intéressant de voir aussi avec le recul comment certaines choses se mettent en place et sont reprises dans la société, deviennent une mythologie. Enfin, il y a une espèce d'énorme rouleau compresseur qui mélange tout et puis qui se met en place. Ça y est, je vois ça aussi. C'était très intéressant. Je fais un autre comparatif avec deux autres domaines, dans le domaine connexe à l'ufologie, les crop circles, où. Avant, moi je me rappelle du premier article que j'ai lu sur les crop circles, c'était par le biais de Jean Sider en 83. Mais avant, personne n'en avait entendu parler. Et maintenant, c'est devenu une constante dans l'ufologie. C'est un phénomène qui est lié à l'ufologie et à jamais. Regarde le Chupacabra, c'est pareil. Avant 95, on n'en parlait pas. Et il a fallu les premiers articles sur Porto Rico, là, par un chercheur, pour populariser ça. Et hop, ça y est, c'est rentré dans l'ufologie. Ça a été pris. Pris en charge, voilà, ça a été phagocyté, hein, et on voit bien des. C'est ça qui est très intéressant d'ailleurs, de voir comment avant, pendant et avec le recul, comment certaines choses se mélangent et je trouve viennent brouiller l'étude.
Ouais, totalement. Pour le Chupacabra, je sais plus. La première observation est pas tellement ancienne. Hein,
95, je crois bien.
ouais, c'était ça. Hein, ouais, c'est ça. Ouais, c'est très récent. C'est un phénomène très récent celui-là. Mais ce qui a vraiment popularisé, pour ceux qui ne savent pas, le Chupacabra dans le monde entier, c'est que X-Files a fait un épisode dessus, quoi. Et bon, si X-Files fait un épisode dessus,
Et
X-Files
il
va
y
s'en
a eu
mettre sa
beaucoup de termes
gloire.
utilisés dans X-Files.
Ouais. X-Files faisait un truc et hop, c'était immédiatement connu par tout le monde dans le monde entier, quoi. Ça, c'est l'influence
Et tu vois,
de.
encore, tu vois, on reparle de grands moments charnières aussi médiatiques et phénoménologiques, entre guillemets. Bah, 95, c'est quand même aussi. Alors, tu vois, il y a trois trucs. Chupacabra, X-Files, et il y a l'autopsie aussi, le film de l'autopsie à cette époque-là. Donc, c'est quand même. Cette époque-là est quand même un. Il y a quand même plein de choses qui se mettent en place. Mais voilà, il y a plein d'événements, enfin, et les médias, les gens réagissent. C'est forcé.
Ouais, c'est un bon exemple donc d'un pic précédent d'intérêt pour le
Oui, je
phénomène
pense, oui.
OVNI, et puis ça a de nouveau régressé, et puis on est dans un nouveau pic maintenant, et voilà quoi.
Bah, surtout que là, il est, comment dire, il a un autre type d'intérêt parce que là, c'est les gens le prennent plus au sérieux parce que c'est pas dans le domaine des ufologues, c'est pas dans le domaine des parasciences, c'est ça se passe à un autre niveau. Alors pour des raisons qui restent encore à définir, hein, mais on voit que c'est pris en compte à des plus hauts niveaux, quoi. On avait eu le Oui, avant, il y avait aussi, entre les deux, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses, hein, qui se sont mises en place entre 95 et puis maintenant, là. Tu as aussi, ah, j'ai perdu le nom, mais tu sais, la fameuse réunion d'Américains à la retraite, de militaires américains. Il y avait tout un panel d'anciens militaires qui ont parlé lors d'un grand congrès. C'était où? C'était dans quelle ville? À Washington. Un grand projet là où il y a eu toute une flopée d'anciens qui ont parlé, dont tu sais, le militaire à la retraite qui est venu, qui a fait une tournée en France et qui a été témoin d'une observation au-dessus des silos aux États-Unis dans les années 60. Enfin bon, là je suis en train de partir un peu à droite et à gauche, mais il y a eu cet événement-là où il y a d'anciens militaires qui ont parlé publiquement devant les médias à une époque, là, un grand congrès.
Ouais, c'est ça. Et puis avant ça, il y avait aussi eu Carl Sagan et toute la bande qui avait fait un congrès sur les. Enfin, il y a eu toute une série de choses au fur et à mesure du temps. Et ce qu'il y a en fait, c'est que souvent, voilà, les gens redécouvrent. Enfin, donc il y a un manque de culture générale sur l'état de l'art dans le phénomène OVNI. Et du coup, les gens, bah, les médias, etc., ils présentent ça de manière non critique. Et puis, sans le contexte pertinent, et les gens qui n'ont pas le contexte pertinent, bah, finalement, il s'imagine voilà, que les choses sont beaucoup plus.
Ben,
Enfin,
c'est-à-dire que.
qu'il y a du nouveau comme ça, mais finalement, bon,
Parce
est-ce qu'il y
qu'on
a
est,
réellement.
on est dans une époque où il y a une surinformation, il y a une course à l'information, et finalement, il n'y a plus ce recul ou le temps pris à vérifier ce qui s'est fait avant. Et il y a quand même une histoire très riche depuis 1947, avec toute une série d'événements, de chercheurs, etc., de témoignages, de cas. Et les médias n'ont pas le temps de se pencher là-dessus, quoi, voilà.
Oui, alors s'imaginer que, parce que c'est dans les hauts niveaux de sphère, que les hauts niveaux critiques, comment dire, de l'armée, etc., seraient très critiques ou très sceptiques. Enfin, je veux dire, il y a le fameux bouquin, je vous conseille, The Men Who Stare at Goats, hein, les hommes qui regardaient, je sais pas comment ils l'ont traduit en français, The Men Who Stares. En français, c'est, évidemment, je l'ai lu en anglais, Les Chèvres du Pentagone, c'est ça le titre, voyons. Ouais, c'est un bouquin qui retrace un programme de recherche américain sur la télékiné, enfin le remote viewing, la vision à distance. Enfin, le titre fait référence à des expériences où quelqu'un essayait de faire de la télépathie avec une chèvre et il y avait des expériences sur le LSD, etc. Donc les Américains ont toujours eu des programmes un peu bizarres et donc ils ont eu aussi un programme sur les ovnis par la bande du Skinwalker Ranch qui était financé, en fait, c'était financé par le gouvernement américain. Donc, ce n'est pas parce que c'est fait par des hauts gradés militaires américains qu'il faut.
Oui.
Ipso facto, c'est super critique, quoi. Super. Bah, écoute, je pense qu'on a vraiment bien fait le tour.
Après, il y a
Vas-y.
ce que je pourrais rajouter, c'est aussi ce qu'on a toujours du mal aussi, c'est on ne voit ça que par le bout de la lorgnette ufologique. Et je pense qu'il faut voir ça dans un contexte global, international, où toujours recadrer le sujet, le remettre en place, parce qu'il y a d'autres. À force d'être trop polarisé sur l'ufologie, on perd de vue tout ce qui est autour. Et je suis sûr qu'il y a d'autres domaines d'intérêt que faire éclater une vérité d'existence extraterrestre sur Terre. Je pense qu'il y a d'autres choses derrière que ça, quoi. Il y a d'autres volontés et d'autres enjeux. C'est pas aussi simple que ça, quoi. On est quand même dans un contexte international qui est quand même difficile. Il y a de la guerre, il y a de l'espionnage à tout niveau, notamment informatique, Internet. Donc, je pense pas que ça soit que un événement ufologique américain à un niveau gouvernemental qui soit en cours là.
Ok.
Mais ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer.
Ah, ça c'est sûr. Bon, de toute façon, c'est toujours amusant de suivre l'actualité ufologique pour ce genre de choses. Mmh. On verra. Après, ouais, je sais pas. Ouais, j'ai l'impression que ça risque maintenant de. En fait, on verra, je me trompe peut-être, mais qu'avec l'audition du Congrès, ça a atteint un peu son point le plus élevé, que maintenant, ça va un peu s'embourber, etc.
Oui, il y a peut-être des lenteurs qui vont se mettre en place, ou il va y avoir des directions qui vont se prendre un petit peu en diagonale, ou ça va se ramifier. Je ne sais pas comment ça. Ouais, je suis curieux. C'est intéressant, mais. On est parti sur quelque chose qui était. On pensait que ça serait une grosse explosion. Et là, c'est contrôlé et repoussé un petit peu dans le temps. Donc, si c'était vraiment. Enfin, c'est dommage qu'il n'y ait pas quelque chose qui apparaisse d'un seul coup. Ben voilà. Alors, peut-être. On voit la chose sous l'autre angle pour équilibrer la balance, comme je dis. C'est que peut-être que de l'autre côté, les gens qui veulent parler veulent avoir des garanties. De parler en sécurité, c'est possible.
Oui, bien sûr. Mais en même temps, oui, donc cette lenteur, c'est quand même étonnant si les prétentions de Grosch sont vraies, quoi, dans le sens où, imaginons qu'il y ait vraiment des citoyens américains qui se fassent assassiner par des services secrets américains et par des aliens régulièrement, et qu'il y ait des engins extraterrestres dissimulés tellement grands qu'on ait dû construire des bâtiments autour d'eux pour les dissimuler. Enfin, c'est un truc qui n'est pas écrit par Grosch.
Après, tu as vu ce qu'il a présenté, c'est... les États-Unis détiennent des engins et des corps extraterrestres. Mais après, l'histoire des meurtres ou des pressions, c'est des choses qui sont rajoutées et qui ne sont pas forcément en lien avec ce qu'il a avancé au départ. Voilà.
Ouais, c'est pas des choses qui a été au Congrès, ils ont présenté une version un peu aseptisée comme ça. Mais je veux dire, si ça c'était vrai, on imaginait que le gouvernement américain devrait réagir de manière beaucoup plus. Enfin voilà, s'il y a vraiment des engins dans des hangars, il faut envoyer les forces armées ouvrir le hangar et voir l'engin.
Après, peut-être que le gouvernement justement veut pas réagir de manière aussi ouverte que ça, justement pour pas être confronté à une réalité et d'être obligé de cracher le morceau de manière honteuse. Allez. On peut imaginer ça.
Oui, c'est ce que les ufologues vont dire. Il faut laisser le temps aux militaires de déplacer les engins dans un autre hangar.
De creuser des grands trous, puisqu'il paraît qu'il y a un ovni, ils n'ont pas pu. Un scoop ou un ovni, un vaisseau, il était tellement grand qu'ils n'ont pas pu le déplacer, donc ils l'ont enterré carrément.
Ouais. D'ailleurs, il faut se méfier de ces versions aseptisées, surtout pour les gens qui pensent que cette bande. De lobbying, quoi, donc le Skinwalker Ranch, sont des gens sérieux, parce que c'est vrai qu'ils présentent souvent une façade pour essayer de légitimiser le sujet. Et Leslie Kean, d'ailleurs, a été interviewée sur un podcast il y a quelques mois où elle disait dans mon article du New York Times, j'ai pas parlé des enlèvements par les extraterrestres, même si les enlèvements par les extraterrestres sont réels, etc. Mais c'est parce qu'en fait, ça aurait discrédité l'article, les gens ne l'auraient pas pris au sérieux, donc je n'ai pas inclus l'information dedans. Donc elle dit clairement en fait, qu'elle manipule l'information, qu'elle ne va pas mettre les trucs les plus extravagants auxquels elle croit malgré tout, parce que les gens, en fait, il faut leur présenter. En fait, ils essaient de faire avaler la cuillère.
Il y a une douceur, il ne faut jamais être brutal. Heureusement, tu vois, au départ, on parlait que d'un crash, et puis après.
Les êtres interdimensionnels qui nous attaquent d'une autre dimension, il faut, avant d'y arriver, il faut un peu de temps dans les médias.
tu vois bien quand même que c'est un domaine qui n'est pas neutre, c'est sûr. Mais il y a un truc qui m'a frappé, c'est quand j'ai vu les premières images de l'intervention de Grosch, derrière, tu as de chaque côté. Tu vois Corbel et puis Knapp de l'autre côté. Tu te dis, waouh, ils sont vachement bien placés et ce n'est pas forcément les représentants les plus neutres de l'ufologie américaine.
C'est sûr. Enfin bref. Enfin, voilà, on arrive à l'heure. Donc, mais de toute façon, je pense que voilà, maintenant, les auditeurs ont déjà un cadre de référence auquel vous pouvez envoyer le lien à vos compas qui ont été convaincus par tout ça.
Hier soir, j'étais encore sur un truc là. Si les auditeurs veulent se faire un avis, je trouve qu'il y a une page. Hier, je consultais une page Wikipédia qui était vraiment mise à jour depuis hier seulement sur tout l'historique lié à Grudge, qui est vraiment super intéressante là, qui est très longue avec énormément de références. Ça peut donner des bases déjà. Quand tu tapes Grudge Wikipédia, tu vas voir, tu as une page. Je sais, je suis pas allé voir qui a fait ça, mais je trouve que c'est là, il y a de quoi faire fouiller. Voilà, il y a de quoi se faire une idée. C'est assez bien présenté, assez bien fouillé, et il y a énormément de références derrière pour aller vérifier tout ça, quoi.
Une page en français ou en anglais? Enfin, en anglais que tu aurais traduit, une
En
page en...
anglais.
Ouais. Alors, moi, j'ai David Krush, UFO Whistleblower Claim, c'est peut-être ça?
Ça doit
Les
être ça.
affirmations. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'elle a l'air. Je ne l'ai pas lu, honnêtement, je
Elle
viens de
n'est
la
pas tout
découvrir, mais
cru. Et il y a
ouais,
un
c'est.
très bon, comment dire, très bon historique, quoi. Vraiment.
Ouais. Avec blindé de liens, quoi. En fait, c'est les gens de Wikipédia qui font le travail que les journalistes devraient faire normalement, mais bon, c'est pas
Ouais,
grave.
c'est ça. Ça, alors
Classique, quoi.
peut-être que eux, ils ont plus de temps, quoi, on va dire, quoi, là, que monsieur les journalistes qui sont pris dans la course à l'info. Voilà.
Très bien, bah écoute, encore merci d'être venu nous parler de tout ça.
Rien, Jean-Michel.
Ouais, je pense que malheureusement, tu n'as pas de livre ou de page internet à toi à
Alors
nous
moi, je
donner.
renverrai, moi, évidemment, si les gens s'intéressent un peu à certains domaines de l'ufologie française et de la recherche, je les renvoie évidemment vers deux sites. Le premier, c'est ben, le travail que nous faisons, nous, au CNEGU. Alors, quoi qu'on en dise, là, les positions sont très, très extrêmes sur nos travaux, mais je dirais que les travaux du CNEGU, c'est le reflet de différentes approches, mais au moins on a le mérite depuis des années, des décennies qu'on se connaît, même si on a des avis différents sur la question les idées différentes, ben, au moins on échange et on travaille sur du concret. Donc ça, c'est au niveau du CNEGU, l'enquête de terrain.
Oui, c'est important ce que tu dis là, parce que je pense que les gens ne s'en rendent pas forcément compte, parce qu'ils ne connaissent pas bien le CNEGU, mais parce que voilà, ils entendent, je ne sais pas, Eric ou Patrice.
Ah, notamment Eric
Donc,
Maillot, évidemment.
ouais, mais
Et
je veux dire,
Patricia.
ils ne se rendent pas compte qu'il y a quand même réellement une diversité d'opinions dans le CNEGU, quoi. Et
Tout
bon,
à fait,
quand
c'est
les gens
toujours le problème
s'expriment,
de
c'est pas.
globaliser ou de mettre une étiquette sur des gens alors que les avis sont vraiment très différents. Ben, tu es venu, tu as été membre pendant assez longtemps, tu es membre occasionnel, et tu vois bien comment ça se passe à l'intérieur où on débat, on n'est pas d'accord entre nous, on a des idées différentes, mais on a toujours ce but qui est de travailler en commun de manière rationnelle, scientifique, et de présenter des choses qui sont vérifiables. Voilà. Donc
Ouais,
ça, c'était...
l'idée, c'est de faire du travail concret, quoi,
Oui,
c'est
c'est ça,
vrai.
voilà.
Mais c'est vrai que
Je suis
parfois,
servi un petit peu de ça.
les discussions peuvent être un peu animées, disons, sur certains sujets.
Et puis donc là, c'était le côté travail de terrain, enquête. Et puis sinon, l'autre grand volet, évidemment, c'est le travail du sceau, dont je fais partie depuis très longtemps, qui est la sauvegarde des archives ufologiques, où là, on a un boulot monstrueux à faire pour protéger de l'information ufologique, quelle que soit son origine, quel que soit son contenu. Le but est de mettre à disposition de l'information pour les générations futures, parce que on s'est rendu compte que les générations précédentes n'avaient pas eu forcément ça en tête, et on a perdu du temps parce qu'il y a eu des choses détruites, ou oubliées, ou éclatées. C'était le constat avant la création du sceau dans l'ufologie française. Donc on a été frustrés d'entendre parler de plein de choses très intéressantes sur lesquelles on n'avait plus rien. On n'avait que des informations de deuxième main, troisième main. Donc l'importance de la sauvegarde ufologique et comment dire, de l'accès à cette information, évidemment, pour que les chercheurs puissent travailler dessus. Voilà.
Ouais, d'ailleurs, dans notre discussion précédente, on a montré l'importance de connaître l'histoire de l'ufologie, les
Tout à fait.
événements, etc. Et enfin, ni toi ni moi ne sommes historiens, mais donc ou même sociologue, mais c'est pour ça que c'est important d'avoir toute cette documentation pour les gens qui voudraient
Et surtout,
travailler dessus et retracer les événements de manière rigoureuse, quoi, pour de manière
et
exhaustive.
d'avoir, tu vois, et d'avoir en plus l'accès aux documents, les documents primaires, je dirais pas les documents secondaires, parce que nous, ufologues, moi, ufologue, je me rappelle quand je suis arrivé dans ce domaine-là, en 78, qu'est-ce que j'avais entre les mains? J'avais que les livres pour découvrir des cas ou des idées, mais j'avais pas les documents originaux, les enquêtes originales. Et d'ailleurs, souvent, on n'a pas entre les mains les enquêtes originales pour accéder au vrai cas, tu vois. Tu vois, un exemple, par exemple, c'est grâce à des chercheurs qui mettent en ligne ou qui sauvegardent des choses qu'on peut accéder à des cas historiques qui sont très intéressants. Hier, j'étais par le biais d'une page Facebook, là, c'est très sympa, ils ont mis un lien vers le site américain The Black Vault, qui a mis en ligne les documents originaux sur l'affaire de Socorro. Donc, bah, tu peux accéder aux documents d'enquête de Socorro, c'est super, quoi, voilà.
Oui, pour les gens qui découvrent l'ufologie, parce évidemment la raison, c'est parce que dans les livres, l'information est souvent malheureusement déformée. C'est un peu le téléphone arabe. Alors, arabe, vous savez, le jeu qu'on fait avec les enfants, on leur demande de dire dans une oreille et puis de répéter dans l'oreille du voisin, etc. Et au bout de 10 bouquins, il y a des choses incorrectes qui sont... Bah,
Où tu fais référence à un autre chercheur ou un autre écrivain qui lui faisait référence à quelqu'un d'autre, puis des fois ça tourne en rond, quoi. Chacun fait référence à un autre, à son voisin.
ouais. Et c'est un problème qui peut exister dans les livres sceptiques aussi, mentionnons-le. C'est pas un problème qui ne touche que l'ufologie. Pouvoir retourner aux sources primaires, c'est vraiment crucial, quoi, ça c'est
C'est
sûr.
ça, tout à fait. Dans un domaine comme ça, là, qui est aussi épineux que le domaine ufologique, ben, c'est au moins ne pas perdre de temps pour aller à la source. Voilà.
Ok, ben encore merci Thierry, à une prochaine
Rien.
fois alors.
Tout en sachant que je suis pas un grand spécialiste de ce qui se passe aux États-Unis, mais bon. Après, on a les moyens d'aller voir, de se tenir au courant pour se faire une petite opinion. Voilà, c'est sûr.
C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. À la prochaine, sceptiquement vôtre. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao.
Salut.